Merci France, merci pour tout ce que tu fais. Moi, je m'appelle Hubal, puis je suis un alcoolique. Aujourd'hui, je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Puis je veux tout vous remercier pour être là parce que sans vous autres, moi, c'est impossible. J'ai essayé longtemps sans vous autres, puis ça ne marche pas. Puis avec vous autres, bien, ça fonctionne. Je vous remercie d'être là. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin que vous soyez là. Si vous voulez bien, on va commencer le meeting avec un moment de silence. Puis gardez en mémoire les personnes qui devraient être ici puis qui ne veulent pas. Puis aussi en mémoire les personnes qui voudraient être ici puis qui ne peuvent pas ce soir. Fait qu'on va avoir une bonne pensée pour eux autres. Je vous remercie. Puis comme à l'habitude, bien, on va réviser ce qu'on a fait la semaine passée. Au début, on révisait plusieurs chapitres, là, mais là, on s'est rendu trop long. Fait qu'on va réviser le chapitre qu'on a fait la semaine passée, de la page 95 à 98, dans le chapitre à l'œuvre, qui est le chapitre 6. Mais qu'on a décortiqué l'étape 10 là-dessus. L'étape 10, on a lu là-dedans beaucoup de promesses. Je pense qu'il y en a fait comme 25 promesses dans cette étape-là pour nous dire que si on est rendu là, réellement, il y a un paquet de promesses qui va arriver dans notre vie qui va faire que notre vie va être plus facile à vivre, puis on va être plus facile à vivre avec les autres. Fait qu'il y a un peu un résumé de ça. Il nous dit l'étape 10 qui nous demande de poursuivre notre inventaire et redresser toute nouvelle faute. Nous disent, comme nous venons de le faire dans l'étape 4 à 9, nous devons être vigilants pour éviter les quatre défauts prédominants, qui sont l'égoïsme, la malhonnêteté, les peurs, puis le manque de considération. Ces quatre défauts prédominants-là ont contrôlé notre vie. Toute notre vie est basée sur ces quatre défauts-là. Puis là, bien, si on les voit refaire surface, bien, on va être là pour essayer de les corriger le plus vite possible. Je demande à Dieu de me libérer, puis d'en parler avec mon guide spirituel, mon parrain, ma moraine ou mon guide spirituel, d'en parler si ces défauts-là redeviennent. Faut faire quelque chose de différent pour être capable de s'en débarrasser. Okay? Puis, on va demander à Dieu qui nous aide. On va parler à notre parrain, notre moraine. Puis, on va aller rendre service. On va trouver des places où on peut rendre service. Surtout il y a beaucoup de monde qui ont besoin de beaucoup d'aide. Donc, ça devrait être assez facile d'aller aider à quelqu'un. Ils nous disent amour et tolérance, c'est notre code. À partir d'aujourd'hui, on va donner de l'amour à tout le monde, on va être tolérant envers tout le monde, qui peut-être sont contre nous autres, puis qu'ils ne savent pas. Puis tant qu'on ne sait pas mieux, on ne peut pas faire mieux. Il faut arrêter de blâmer tout le monde parce qu'ils n'ont pas appris mieux. Nous autres, on est rendu à l'étape 10, ça veut dire qu'on a appris mieux. Depuis la première étape qu'on travaille là-dessus, jusqu'à l'étape 10, on a appris à faire mieux, on a appris à comprendre mieux, on a appris à tout mieux faire. Fait qu'on va commencer à parler. Amour et tolérance, ça va être notre code à partir d'aujourd'hui. Amour et tolérance, OK. Je vous ai noté beaucoup de promesses qui étaient là dans la 10e étape. Je pense qu'il y en a peut-être 25 en tout. Je ne les ai pas toutes ressourcées, mais il y a beaucoup de promesses. Ils nous disent, entre autres, qu'on a cessé de combattre l'alcool. On n'a plus à faire de promesses, on n'a plus. C'est ça le miracle, c'est qu'on n'a plus à dire je ne le ferai plus. Ça ne nous vient même plus à l'idée. C'est chassé. C'est une des plus grosses promesses qu'il y a dans notre dixième, dans tout le gros livre, dans le fait, parce que c'est pour ça qu'on est arrivé à l'alcoolique anonyme pour aller se battre contre l'alcool. Puis finalement, on n'a pas à se battre. On a juste à laisser Dieu guider notre vie, puis ça va être. C'est ça le miracle. Le goût de boire ne nous vient pas à l'idée. Puis s'il nous vient, il est vite chassé, il ne reste pas là. Parce qu'on a un programme spirituel. Puis ils nous disent qu'il est facile de négliger ce programme-là. Fait que ça ne veut pas dire que j'ai fait mes étapes, c'est au tour des autres à le faire. Non, ma job, c'est d'aller aider les autres à les faire. Parce qu'ils nous disent qu'on a seulement un sursis quotidien. Sursis quotidien, ça veut dire, comme mon chum Marc, il dit tout le temps, là, moi, il dit, ma date de rédemption, c'est à minuit à soir. À minuit à soir, c'est fini. Il faut que je recommence en deux à minuit une. Ma date de rédemption est finie. J'ai un sursis quotidien. Pour être capable d'avoir un autre sursis quotidien, mais il va falloir que je fasse ce que j'ai fait aujourd'hui, répéter ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il y a des choses à faire. OK. Chaque jour, je demande d'avoir la volonté de Dieu. Puis la façon que je veux faire la volonté de Dieu, bien, aussitôt qu'il me vient une idée dans la tête, bien, je me demande, c'est-tu correct si je pense de même? Puis si je vais pour agir sur des idées-là, je me dis, c'est-tu correct si j'agis de même? Mon parrain me disait tout le temps, Hubert, mets une chaise à côté de toi, puis comme Dieu sera à côté de toi, tu agiras-tu de même? Tu penseras-tu de même? Si tu n'es pas sûr, il dit, t'es bien mieux de ne pas le faire. Fait que c'est notre guide à partir d'aujourd'hui, c'est-tu correct si je pense de même? C'est-tu correct si j'agis de même? Dans tous les domaines de notre vie. C'est la façon de servir de la volonté de Dieu, de le trouver à travers de ça. Puis il nous dit, si on a fait les 10 premières étapes, bien, il nous dit, nous ressentons son esprit en nous, une des promesses encore. Nous avons développé ce sixième sens vital. Un sixième sens qu'on a, c'est d'avoir Dieu en nous. On le ressent qu'il est là, on le sait qu'il est là. Puis chaque fois que moi, je m'adresse à Dieu, je le ressens dans moi. Quand je le néglige, il est là pareil. Mais aussitôt que je m'en aperçois, mais Dieu, remonte-toi dans moi, puis je le ressens, je le vois tout de suite. Notre sixième sens, vie. Et ça, vital, ça veut dire que notre vie dépend de ça. Mais nous devons demeurer dans l'action. Il faut continuer dans l'action. C'est là qu'on va aller aujourd'hui, l'étape 11, qui est encore dans l'action. Mais avant, on va aller dans le 12 par 12, la page 100 à 108, faire un petit résumé de ça. Vous n'aurez pas le temps de le lire, là, mais je vous dis où je l'ai trouvé. Ce que je vous dis là, c'est dans le 12 par 12, la page 100 à 108. Quand nous entreprenons la 10e étape, nous commençons à mettre en pratique le mode de vie d'EA. D'étape 1 à 9, on nous a déterminé c'est à quoi. Puis l'étape 10, je commence à mettre ça en pratique, ce mode de vie-là. Puis c'est pas mon mode de vie, c'est pas mon programme, c'est le programme des alcooliques anonymes que j'ai adapté dans ma vie. Ils nous disent que nous pouvons garder notre équilibre spirituel en gardant à l'esprit nos forces et nos faiblesses pour grandir. Je sais que j'ai des défauts de caractère, je suis au courant, puis j'essaie de m'en débarrasser, puis je demande à Dieu tout le temps. Des fois, je vois des places, je sais, les circonstances sont que je vais développer un défaut de caractère. Fait que je demande à Dieu de me donner la compassion, de me donner de l'amour et de la tolérance pour pas que j'aille du côté négatif de ces choses-là. En gardant à l'esprit nos forces, nos faiblesses pour grandir, pour devenir la personne que j'étais supposé être. Moi, j'arrive à haut, je ne savais pas, je ne me connaissais même pas. Puis à travers les 9 premières étapes, j'ai commencé à me connaître, puis l'étape 10, je me suis mis à commencer à mettre ça en pratique avec tous vous autres. Puis que je peux reconnaître mes excès de sentiments négatifs, mes apitoiements, mes remords, la colère, la jalousie, l'envie. Puis ils nous disent que toutes ces choses-là, faut à tous les jours, faut que je sois au courant que c'est ça, que ça peut arriver dans ma vie. Puis si jamais ça se présente, ben j'en parle à quelqu'un, puis je vais aller demander à Dieu de ma compréhension qui m'aide à me débarrasser de ça. Ils nous disent que l'inventaire, selon le temps, des pratiques vont me rendre la vie meilleure et plus heureuse. Il faut que je fasse une 10e étape à tous les jours. Puis dans la 10e étape, ils nous montrent qu'on peut faire 5 différentes façons, mais une au moins, il faut qu'on fasse quotidiennement. Si ma vie spirituelle ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Quand je blâme les autres, il faut que j'aille voir pourquoi que ça ne va pas bien. Peut-être que l'autre m'ont démontré ça, mais ça dépend de moi. Il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas bien dans moi si je trouve que la vie n'est pas correcte. Je suis tout le temps responsable à quelque part. C'est ça que l'étape 4 et 5 m'a montré. Dans l'étape 10, bien, je devrais le confirmer tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Quand j'ai des ressentiments, de la peur, je me sens coupable, j'ai des remords. Sont causés par mon égoïsme, ma malhonnêteté, mes peurs puis mes manques de considération. Je vais aller réviser ça tous les jours. Où est-ce que ça m'a amené, toutes ces choses-là? Okay? Il faut analyser ce qui est en cause et l'en disposer en demandant à Dieu de m'aider à me corriger. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait avant de me coucher le soir, les erreurs que j'ai pu commettre au cours de la journée, puis je vais demander à Dieu qu'il m'aide à me débarrasser de ça pour pas que je répète les mêmes erreurs tous les jours. Ils nous disent aussi avant de se coucher le soir, pas seulement il faut que je rappelle mes erreurs, mais mes succès aussi. Puis des fois, c'est peut-être juste des bonnes intentions que j'ai eues, je n'ai pas pu les matérialiser, mais au moins, j'avais des bonnes intentions. Parce qu'on trouve ça dur de trouver nos défauts, mais je pense que c'est encore plus difficile de trouver nos qualités. Mais l'étape 10 nous dit qu'on devra faire les deux, aller trouver les défauts qui nous nuisent, puis aller accentuer sur nos qualités pour qu'on ne devienne pas morbide. Puis nos succès, bien, ils sont là par la grâce de Dieu. Nous constatons que, comme tous les autres êtres humains, on fait souvent des erreurs. Puis inutile de nous mettre en colère, nous progressons tous. Tout le monde fait des erreurs. C'est même s'ils ne sont pas dans l'or, on fréquente du monde, ils font des erreurs, puis il faut être prêt à les pardonner avant même que ça commence. Inutile de nous mettre en colère. Si on se met en colère, bien, on fait du mal aux autres, puis on se fait du mal à nous autres aussi. On continue de réparer nos torts. Et une fois une fois par année, on devrait rencontrer notre parrain, notre marraine, notre guide spirituel au moins une fois par année pour aller reviser quand notre sixième étape, on a sorti tous nos défauts de caractère. Puis nous autres, la brochure qu'on a ou le package qu'on a, en deuxième partie, c'est marqué, je vais aller écrire mes 10 plus gros défauts de caractère. Puis ça, je vais aller parler à mon parrain, ma marraine, mon guide spirituel, comment faire pour me débarrasser de ça. Puis dans 6 mois ou d'un an maximum, je devrais réviser avec mon parrain, ma marraine, sans regarder si ce que c'est j'ai n'est pas correct. Je vais aller faire un nouvel inventaire. Puis après ça, je vais pouvoir la comparer avec celle que j'ai faite, que je viens de faire, pour voir s'il y a eu des changements ou qui sont les changements que je devrais faire. Une fois par année, j'envoie mon guide spirituel pour comparer mon avancement et ma détermination à corriger ces défauts-là. Il faut que je sois déterminé parce que ces défauts-là sont ancrés, sont comme mes préjugés, ils sont là depuis que je suis au monde, puis je les ai pratiqués, puis je les ai, j'ai, à des, presque toutes, j'ai pensé quasiment que c'était des qualités. Je n'ai jamais vu ça comme des défauts. Il y a bien de ces défauts-là. Je n'ai pas vu ça comme des défauts. Aujourd'hui, à l'aide de mon parrain, puis la 4 à 9, j'ai réalisé que c'était des défauts. C'est pas moi qui étais, c'est pas moi à donner de l'ordre à personne. C'est pas moi à dire au monde quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Il faut mettre Dieu dans ma vie, que lui va m'aider à faire ça. Puis le Dieu va user à faire qu'est-ce que les autres ont à faire. Moi, je n'ai pas à me mêler de ça. Donc, on va retourner dans le gros livre. On va commencer notre 11e étape. À l'œuvre, dans le haut de la page 97, hein, on va aller lire ce qu'ils nous disent, ce que j'aime dans la 11e étape. Ils nous disent exactement quoi faire, en quelle partie de la journée, puis ils nous disent même quand ça va mal, quoi faire. Fait que ces 3 pages-là, le 97, 98, 99, là, c'est notre mode de vie qui est en face de nous autres. Hein. On va aller le réviser. Puis ça, j'aime tellement la 11e étape parce que toutes les parties de la journée me disent quoi faire, comment le faire, puis comment réussir à faire ce que je suis supposé faire pour devenir une meilleure personne. Dans l'autre, la page 97, nous disent la 11e étape suggère la prière et la méditation. La question de la prière ne devrait pas nous rendre timides. Les hommes meilleurs que nous s'en servent constamment. Si nous adoptons la bonne attitude et que nous essayons de l'adopter, la prière donne des résultats. Il serait facile de traiter cette question d'une manière vague. Mais nous croyons pouvoir faire des suggestions claires et utiles. Le gros livre nous dit, on ne va pas qu'en parler, on ne va pas vous dire, on va vous montrer exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. C'est une des rares places que le gros livre, ni plus ni moins, nous dicte quoi faire à chaque partie de la journée. Fait qu'on va commencer avec, avant de nous mettre au lit le soir. Qu'est-ce qu'on fait avant de se mettre au lit le soir? Mon parrain, il me dit, moi, avant de te mettre au lit, Hubert, ça ne veut pas dire quand tu es couché, ça. Tu peux le faire debout, tu peux le faire assis ou tu peux le faire à genoux, mais tu ne peux pas le faire coucher. Avant de me mettre au lit soir, c'est des suggestions claires et utiles. Ce n'est pas que je vais me coucher et je vais m'endormir là-dessus, non. Avant de se mettre au lit soir, nous passons notre journée en revue de façon constructive. Constructive, ça veut dire que je ne ferai pas des mauvaises choses, je vais aller voir tout ce qui s'est passé. Avons-nous été égoïstes ou malhonnêtes? On a-t-il éprouvé du ressentiment, de la peur? Devons-nous des excuses à quelqu'un? Avons-nous gardé pour nous-mêmes quelque chose dont nous aurions dû discuter tout de suite avec une autre personne? Toutes ces questions-là, quand je passe, moi, je lis la 11e étape, cette partie-là, sur ma tête de lit. Là. Quand je me pose ces questions-là, le tape, il rouvre. Qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça me revient dans la tête. J'ai-tu été égoïste aujourd'hui? J'ai-tu été malhonnête? Si je l'ai été, ça me vient dans la tête tout de suite. J'ai un crayon et un papier à côté de mon chevet de lit, puis j'écris un mot. Si je ne l'ai pas corrigé aujourd'hui, je vais demander à une femme qui m'aide, puis là demain, je vais faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Avons eu de la peur. Moi, de la peur, j'en ai tous les jours. Je ne savais pas c'était quoi de la peur. Depuis que j'ai reconnu c'est quoi la peur, je le sais, c'est un mal qui se dépose dans le milieu de mon estomac. C'est ça, une peur. Puis si je ne la soigne pas, bien, ça va devenir de plus en plus grave. Il y a du monde qui se ramasse à l'hôpital, puis ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent peut-être que c'est une attaque de cœur, mais en réalité, c'est la peur qui n'a pas été soignée. Ça devient une obsession, ça devient de plus en plus fort. Il faut reconnaître nos peurs, puis demander à Dieu qu'il nous les enlève. Puis ça marche. C'est quelque chose qu'on a dû discuter tout de suite. Fait que si peut-être qu'il est trop tard pour appeler mon parrain, s'il n'est pas fait dans la journée, peut-être le lendemain, je vais en appeler pour en parler à un parrain ou un guide spirituel pour être capable de me débarrasser de ces problèmes-là. Avons-nous été bons et bienveillants avec chacun? J'ai-tu fait ce que j'étais supposé de faire? Peut-être j'ai ouvert la porte à quelqu'un. Peut-être j'ai aidé à quelqu'un à porter un colis. Ça peut être 100 choses différentes. Mais je vais les noter pour pas que je devienne d'un état morbide, pour pas que je devienne dépressif, parce que je pense que je ne fais plus rien de bien. Mais c'est pas ça. Oh, on nous apprend à faire, arrêter de faire du mal, puis nous apprend à faire du bien. Fait qu'on va aller tout mélanger ça dans notre 10e étape pour sortir de ça glorieux, puis vainqueur, pour qu'on devienne une meilleure personne. Avons-nous été bons? Y a-t-il quelque chose que nous aurions pu mieux faire? T'sais, dans la 4e étape, on en a parlé, j'ai fait du tort à quelqu'un, comment j'aurais dû agir autrement, mais la même chose de l'étape 11, qui fait partie de notre étape 10, cette partie-là aussi, mais je vais voir, y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire de mieux? Y a-t-il quelque chose que j'ai mal fait, ou que j'ai mal agi, ou quelque chose comme ça? Avons-nous pensé à nous-mêmes la plupart du temps? Avons-nous cherché à être utile aux autres, à apporter quelque chose dans la vie? Oui, peut-être que j'ai ouvert la porte à quelqu'un, j'ai fait signer quelqu'un de passer devant moi. Toutes sortes de belles petites choses qui peuvent arriver, que je dois les noter pour être certain que je m'en vais dans la bonne direction. Toutefois, nous devons prendre garde de ne pas tomber dans l'inquiétude, le remords ou la réflexion morbide, car ça nuira à notre action auprès des autres. C'est pour ça que c'est important, j'ai à le marquer le positif dans ma journée aussi, pas rien que le négatif, parce que la journée est fructueuse. C'est rare qu'on n'ait pas des journées fructueuses, mais souvent, on a tendance à s'en mettre sur le dos encore plus, en plus. Quelqu'un nous a regardé de travers, mais là, on pense qu'il nous haït, puis on s'en va là-dedans. Ça n'a pas de rapport. On laisse vivre le monde, puis on va commencer à vivre un peu plus libre, nous autres-mêmes. Pour pas que ça nuise à notre action après les autres, on devient morbide. Une fois notre examen de conscience terminé, de demander à Dieu de nous pardonner nos erreurs et nous indiquer quelles mesures correctives nous devons prendre. Deux fois dans le même paragraphe, finalement, comment j'aurais dû faire autrement? Mais si j'ai fait une 4 et 5 en conséquence avec ce qui est écrit dans le gros livre, mais ces paroles-là devraient être déjà dans ma tête, ces phrases-là devraient être déjà dans ma tête. Quelles mesures correctives, qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place? Aujourd'hui, je me suis fâché après quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place? Amour et tolérance, on vient de lire, c'est ça notre code. Je vais aller pratiquer ça de plus en plus. Là, on a fini, là, on va se coucher, tout va bien. Okay? On se réveille le matin. À notre réveil, pas une demi-heure plus tard, à mon réveil. Quand je rouvre les yeux le matin, peut-être si ça presse trop, je peux aller à la toilette, mais normalement, je devrais être capable de faire ce paragraphe-là dans ma tête avant de me lever, là. À notre réveil, nous pensons 24 heures devant nous et nous regardons nos projets pour la journée. Je vais repasser vitement ma journée. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à faire? Okay? Faut que j'aille faire une cinquième demain matin. Faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça. Vitement, OK? Puis après ça, suite quand c'est passé, nous demandons d'abord à Dieu de nous guider dans nos pensées et surtout de libérer notre esprit de l'apitoiement comme tout mobile malhonnête ou égoïste. Si je me rouvre les yeux, je passe ma journée vite, puis je demande à Dieu qu'il guide mes pensées, puis qu'il me libère mon esprit de l'apitoiement, puis de la malhonnêteté, puis de l'égoïsme, je passe un bon pied. Déjà, je suis bien parti. Hein? C'est ça qu'ils veulent qu'on fasse, c'est ça que le gros livre nous enseigne. C'est je vais commencer à être joyeux, heureux et libre en me levant. Je demande à Dieu, prends soin de ces choses-là aujourd'hui, parce que je veux pas aller là-dedans. Puis ils nous disent, ainsi disposés, nous pouvons sans inquiétude nous servir de nos facultés mentales, car après tout, Dieu nous a donné un cerveau pour s'en servir. Nos pensées seront plus élevées si notre esprit est débarrassé de tout motif nuisible. Si je ne vais pas mettre de malhonnêteté, d'apitoiement et d'égoïsme dans toutes les parties de ma vie, mais je vais devenir plus joyeux, heureux et libre. T'sais? Mes pensées vont être plus élevées, puis je vais être capable d'aller aider les autres. Puis là, on devait faire notre toilette peut-être, puis là, on va venir faire notre méditation. Le prochain paragraphe nous parle de la méditation. Il ne nous explique pas exactement comment faire la méditation. C'est pour ça que plus tard, on va aller dans le 12 par 12, parce qu'ils nous disent exactement comment méditer. Moi, j'ai adoré ça quand j'ai trouvé cette recette-là dans le 12 par 12. Je pense que ça a sauvé ma vie. On va aller voir ce que Bill nous écrit à page 98, le paragraphe sur la méditation. Il nous dit, se peut que nous soyons indécis au moment de planifier notre journée, que nous éprouvions de la difficulté à définir notre plan d'action. Dans ce cas, nous demandons à Dieu de nous donner l'inspiration, l'intuition qui nous fait prendre la bonne décision. Si j'ai des responsabilités, j'ai de quoi les faire. Moi, je sais que demain matin, je vais faire une cinquième étape à maison de thérapie à Victoriaville. En me levant, je vais demander à Dieu qu'il m'aide à aider cette personne-là le plus possible. pour qu'on fasse la meilleure cinquième étape possible. Si j'ai d'autres projets de la journée, je vais faire la même chose avec ces projets-là. Puis je vais aller m'inspirer. Je vais me mettre à mon fauteuil que je suis plus confortable ou dans l'endroit de la maison où je suis plus confortable pour aller faire peut-être un 5 minutes ou 10 minutes de méditation. Puis ceux qui veulent en faire une demi-heure, il n'y a rien de mal avec ça aussi. Mais si au moins je commence ma journée avec 5 à 10 minutes de méditation, déjà je pars sur le bon pied. Tu sais, puis dans le début, quand j'arrivais en haut, mon parrain me disait, faut que tu fasses ça, il va. Ben, j'ai dit, j'ai pas le temps, mais il dit, à quelle heure tu te lèves? Je me lève à 6 heures, puis il dit, lève-toi à 6 heures moins quart, ça va te donner 15 minutes de faire ça. Tu sais, il y a toujours moyen si on veut le faire, puis si on veut pas le faire, ben, on trouve toutes sortes d'excuses pour pas le faire. Mais si on le fait, puis on commence à le faire, on va voir les bienfaits de ça, puis on va vouloir le faire. Puis s'il y a des jours qu'on est trop serré, on va le faire le soir avant de se coucher, on va faire. Ça nous prend notre méditation pour aller replacer notre cerveau en ligne avec la volonté de Dieu. Fait qu'il se peut que soyons indécis de planifier une journée, nous éprouvons la difficulté à définir nos plans d'action. Dans ce cas, nous demandons à Dieu de donner l'inspiration et l'intuition qui fera prendre la bonne décision. Nous restons calmes et détendus. Pas énervé à propos de ça, s'il y a quoi qui ne marche pas, il faut que j'aille en cours demain ou il faut que j'aille faire telle chose. Relax, Dieu va être là pour moi. Okay? Nous ne débattons pas. Après avoir appliqué cette méthode un certain temps, tu sais ce que je viens de lire là, ça peut-tu prendre, ça prend pas une demi-heure à faire ça. Peut-être, je dis 2 minutes, peut-être 5 minutes, je vais aller repasser ma journée vitement puis demander à Dieu qu'il me guide là-dedans pour toute la journée. On va continuer à nous dire qu'est-ce qui va se produire. Après avoir appliqué cette méthode un certain temps, nous sommes étonnés de voir comment les bonnes réponses nous viennent, mais ça devient de plus en plus facile. Ce qui auparavant n'était qu'un pressentiment ou une occasion, une inspiration occasionnelle devient graduellement un mécanisme de notre esprit. Fait que, automatiquement, je vais m'asseoir dans mon fauteuil ou dans ma chaise principale où je file confortable et pas être dérangé. Automatiquement, ma tête elle va commencer à méditer. Je ne suis même pas assis encore, puis ma tête elle commence. Ça devient un mécanisme de notre esprit. Puis là, ils nous disent, bien, comme nous manquons d'expérience, on débute, hein, et que nous venons d'établir un premier contact conscient avec Dieu, nous ne serons pas inspirés chaque fois. Peut-être je vais trouver le temps long, les premiers 5 minutes, peut-être je vais le faire il y a 2 minutes. Puis quand je vais commencer à être inspiré, je vais commencer à voir les résultats de ça, bien, peut-être je vais en faire un peu plus longtemps. Puis des fois, bien, je m'assieds pour 5 minutes, puis là, 20 minutes, 30 minutes, parce que ça passe tellement vite. Hein. Nous demandons à Dieu de nous inspirer. Il nous arrivera peut-être d'avoir des idées ridicules et de poser des gestes absurdes. Ça peut arriver qu'on ait des idées, qu'on pense que c'est Dieu qui nous a dit. Mais moi, je dis, avant d'agir là-dessus, appelle ton parrain, ta marraine, ton guide spirituel, puis demande à ton être suprême, c'est-tu correct si je pense de même? C'est-tu correct si j'agis de même? Si Dieu est à côté de toi, bien, ça va être bien dur de te tromper toi-même. Mais pour que Dieu, à partir de la 11e étape, on devrait avoir une connaissance de cet être suprême-là qu'on a commencé à développer à la 2e partie de la 1e étape. Ça devrait être pas mal concret pour nous autres, ce Dieu-là, aujourd'hui. Il nous arrive dans les ridicules de poser des gestes absurdes. Bien, avant de faire ça, bien, je vais aller consulter. Néanmoins, avec le temps, notre façon de réfléchir se rapproche de plus en plus de l'inspiration. On va finir par s'y fier, on va finir par le savoir. C'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu que je vais aller faire. Je ne suis pas un homme parfait. C'est certain que je vais faire des erreurs dans la vie. Puis c'est correct que je fasse des erreurs. Que ce qui n'est pas correct, c'est que je ne les reconnaisse pas. Parce que si je ne les reconnais pas, je ne pourrai jamais m'améliorer. En général, nous terminons notre période de méditation par une prière par laquelle nous demandons à Dieu de nous indiquer tout au long de la journée ce que nous devons faire dans chaque circonstance nouvelle et de fournir ce dont nous avons besoin pour aider les problèmes qui s'y rattachent. On a la belle prière de sérénité qui prend à peu près 10 secondes à répéter. Puis quand ça ne va pas bien, quand je ne suis pas sûr, bien, je donne cette prière de sérénité. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Puis je suggère ça à tout le monde. Une prière vite que tu peux faire n'importe quand, à n'importe quel à un moment de la journée. OK? Nous avons les problèmes qui. Nous souhaitons surtout être libérés de notre volonté personnelle et nous veillons à ne rien réclamer seulement pour nous-mêmes. C'est quand je demande des choses, bien, qu'est-ce que je peux demander que je peux demander qui ne sera pas pour moi? Bien, je demande à Dieu de m'enlever mes défauts pour aujourd'hui. Je pense qu'elle va améliorer ma situation, pas juste avec moi, mais avec tout le monde aux côtés de nous autres. Puis nous pouvons toutefois faire des demandes pour nous si les autres peuvent en bénéficier. À la page 15 du gros livre, Bill nous en parle de ça déjà au début de la page 15. Je vais aller vous lire ce que Bill nous dit dans le bas de la page 15. Là. Il nous dit, « Jamais je ne devrais prier pour moi-même, sauf pour demander de devenir plus utile aux autres. » Fait que quand je vais demander De quoi pour moi-même? Je m'en ai rendu qui m'enlève mes défauts de caractère, qui me rend plus serviable pour que j'aie une meilleure vie et que tout le monde autour de moi peut en bénéficier. Nous nous abstenons toujours de prier pour l'accomplissement de nos désirs égoïstes. Hein? C'est pas que Dieu me trouve un char neuf, une nouvelle blonde ou une nouvelle job. C'est pas ça que Dieu fait. Dieu va me mettre joyeux, heureux et libre avec ou sans n'importe quoir. C'est ça que je vais obtenir, c'est ça que la vie va m'apporter si je fais ce que c'est qu'on nous conseille de faire. Nombreux sont ceux qui ont perdu beaucoup de temps en priant exclusivement pour eux-mêmes et qui n'ont obtenu aucun résultat. Vous comprenez facilement pourquoi. C'est moi, j'entends des partages des fois. Alors moi, j'ai demandé à Dieu qu'il m'emmène une femme, qu'il m'emmène un char, qu'il m'emmène un job, puis j'ai tout eu ça. Et moi, je déconseille à le monde à dire ça. Ce n'est pas ça qu'on est supposé dire des saints. Peut-être c'est vrai pour toi, mais le nouveau qui arrive, lui, il va demander les mêmes choses, puis il n'y a rien qui y arrive. Mais il va dire ça ne marche pas, oh, puis Dieu, ça ne marche pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit dans les meetings, surtout quand on dit dans les partages. Peut-être j'ai été béni par la vie, puis beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, que c'était des bénéfices. Mais ça ne veut pas dire que le nouveau va. Peut-être que le nouveau n'obtiendra jamais rien de proche de ça. Puis si j'essaie de convaincre le nouveau, ben, demande à Dieu d'avoir une femme, demande à Dieu d'avoir ci, demande à Dieu d'avoir ça, puis ce n'est pas fait pour lui, ce n'est pas ça qu'il va avoir, mais il va se rebeller. Fait qu'il faut faire bien attention, comme on fait notre partage, de parler de rétablissement. Pas parler de tout ce qu'on a obtenu. Peut-être qu'on va dire, aujourd'hui, j'ai du confort, aujourd'hui, je suis joyeux, heureux et libre parce que j'ai fait mes étapes, puis je continue à les faire en aidant les autres à les faire. Fait que c'est important de peser nos mots, de savoir qu'est-ce qu'on parle, parce que ça ne veut pas dire que ça a marché pour moi, ça va marcher pour tout le monde dans le même ordre d'idée que je suis allé là. Fait que, puis si nous dis dans le Groué, quand ils nous disent qu'on peut être joyeux, heureux, libre et libre, avec ou sans n'importe quoi, ben c'est pour ça qu'il ne faut pas aller. Peut-être que. Il va y avoir beaucoup de monde qui n'auront pas la moitié de ce qu'on a eu, puis ils peuvent être joyeux, heureux et libres. Mais si ça chante d'essayer d'avoir ce que tu as eu, parce que toi, tu lui dis que ça va t'arriver si t'arrives ça, bien, moi, je suis contre ça. Si les circonstances le permettent, nous demandons à notre femme ou à nos amis de nous joindre à la méditation du matin. Si notre religion nous prescrit des dévotions matinales, nous incluons dans notre séance. Si je suis religieux de quelque religion que ce soit, puis ma religion me dit le matin, il faut que je fasse telle ou telle chose, bien, moi, le A, il me dit de faire ma méditation. Je vais faire ma méditation, puis je vais inclure peut-être les autres séances religieuses que ma religion me demande de faire. T'sais, à nulle part dans le gros livre, il nous dit qu'on va délaisser les religions. Si je suis dans une religion, je suis confortable là-dedans, mais je vais adapter AA à ça ou adapter ma religion à ça. Mais je ne veux pas dire que je vais arrêter AA parce que là, j'ai fait ma 11e étape, puis il faut que j'aille à la messe le matin. S'il faut que j'aille à la messe, j'y vais à la messe. Ça ne m'empêche pas d'aller faire ma méditation avant ou après ça. Si nous n'appartenons à aucune religion, parfois nous faisons pour les mémoriser quelques prières toutes faites qui mettent en lumière les principes que nous avons discutés. Il existe plusieurs livres utiles dans ce domaine. Un prêtre, un pasteur, un rabbin peut nous en recommander. Empressez-vous de voir les bons côtés de la religion et mettez à profit ce que ses adeptes proposent. T'sais, si j'en ai pas de prière, j'ai besoin d'un livre de prière. Il y en a beaucoup dans le gros livre, mais si ça ne fait pas mon affaire, je suis pas obligé de prendre ces prières-là. Tout à l'heure, on va aller dans le 12 par 12, puis à la prière de Saint François d'Assise, que pour moi, c'est une des plus belles prières au monde, mais il nous la suggère dans la 11e étape. Mais ici, ils nous disent, si ça ne convient pas, je peux trouver une autre prière, puis je peux demander à un rabbin, un prêtre, quelqu'un qui fait de la méditation, qui peut nous aider. T'sais, la méditation, il y a toutes sortes de méditations. Moi, j'ai pris celle qu'A m'a enseignée parce que mon parrain, il dit, si tu t'en vas dans deux, trois directions, tu vas te perdre. Et quand j'ai connu A, j'ai connu la méditation à travers la 11e étape des A. Pour moi, ça a été champion. Puis là, j'ai tout fait ce que je suis supposé de faire. Avant de me coucher, j'ai fait ce que je voulais. En me levant, j'ai fait ce que je voulais. J'ai fait ma méditation, j'ai tout fait. Ça va encore mal. Ça va mal. Le matin, ça va mal l'après-midi. Mais qu'est-ce que je fais? Encore là, il nous donne des directions claires et utiles. Au cours de la journée, nous faisons une pause lorsque l'agitation et le doute s'emparent de nous. On va faire une pause, un time out. Si je veux me choquer après quelqu'un ou après quelque chose, time out. J'y attends pour aller à la toilette, je vais me retirer. Ils vont nous dire des directions claires et utiles. Lorsque le doute s'empare de nous pour demander d'avoir la bonne pensée ou la bonne action, je vais me retirer puis je vais dire. Mon Dieu, c'est-tu correct si je pense de même? C'est-tu correct si j'agis de même? Ça devrait être constamment dans mon esprit, ça. Et sans cesse, nous nous rappelons que ce n'est plus nous qui dirigeons le spectacle. Le spectacle qu'on levait à la troisième étape, il compare notre vie à un spectacle. Puis, moi, je pensais que j'étais le metteur en scène, j'étais l'éclairage, j'étais tout ça dans le spectacle qui est ma vie. Puis je me suis aperçu à travers des étapes que je suis juste un acteur dans la pièce de théâtre qui est ma vie. Puis souvent, je ne suis même pas un bon acteur. en pièce de théâtre qui est ma vie. Fait que là, je vais demander à Dieu qu'il me replace, qu'il me mette à la bonne place, qu'il me donne ma direction pour cette partie-là. Okay? Nous rappelons que c'est plus nous qui dirons le spectacle. Plusieurs fois, nous répétons humblement que votre volonté soit faite. Peut-être que ça ne marche pas à ma manière, puis peut-être que ma manière n'est pas correcte. Mais je vais demander de l'aide à Dieu. Que votre volonté soit faite. Nous sommes alors beaucoup moins exposés à prendre des décisions folles ou à être la proie de la peur, de la colère, de l'inquiétude, de l'apitoiement. C'est une phrase bien forte, ça. Beaucoup moins exposés à prendre des décisions folles, comme si à brûle-pourpoint, puis moi, je dis à tout le monde, à mes filles, tout le monde qui le demande, j'ai dit tout le temps, dis, je vais te revenir là-dessus. Quelqu'un te demande de quoi, au lieu de dire oui tout de suite ou non tout de suite, dis, je vais te revenir là-dessus, je vais te rappeler, parce que sur l'impulsion, des fois, on fait des choses, puis on ne veut pas les faire, puis on les fait quand même, puis là, on développe des ressentiments contre ces personnes-là ou contre ces choses-là. Fait que si je peux le faire à tête reposée, je dis, ben, je vais te rappeler là-dessus, j'appelle mon parrain, ma marraine ou mon guide spirituel, on en parle, puis là, je peux donner une réponse éclairée. Mais peut-être, je vais aller faire, comme mon parrain me disait tout le temps, prends-toi deux feuilles, Hubert. Sur une feuille, marque les pour, sur l'autre feuille, marque les contre, avant de prendre une décision. Pour être certain qu'on va dans la bonne direction, pour qu'on n'est pas obligé d'insulter les autres, mais on n'est pas obligé de tout faire ce qu'ils veulent qu'on fasse aussi. Il faut qu'on soit confortable avec ça. Mon parrain disait tout le temps, quand tu vas aider les autres, là, la seule joie que tu peux avoir, c'est peut-être aider. Fait que si tu n'as pas de joie à aller aider cette personne-là, ben vas-y pas, parce que tu vas développer des ressentiments. Fait que c'est bien important. Je vais relire cette phrase-là parce qu'elle est tellement efficace. On est moins exposé à prendre des décisions folles, à être la proie de la peur, de la colère, de l'inquiétude ou de l'apitoiement. Si on peut prendre un time-out, on prend un time-out. Attends, on va repenser à ça, on va te revenir là-dessus, au lieu de donner une réponse tout de suite qu'on regrette plus tard. Puis, ils vont attendre. La première fois que j'ai dit ça à quelqu'un, je pensais qu'il était pour me tuer, qu'il s'était posé de passer un coup de tonnerre ou quelque chose. Puis, il s'est rien passé. Il a dit, oh, correct, laisse-moi savoir. Bon, c'est juste ça. Nous devenons beaucoup plus efficaces. On devient plus efficace parce qu'on va faire ce que c'est qu'on est supposé de faire, puis comme ça nous tente de le faire. Okay? Nous nous fatiguons moins vite quand nous ne brûlons pas notre énergie follement, comme du temps que nous tentions d'arranger la vie à notre convenance. Toute ma vie, j'ai essayé de tout faire. Je me suis débattu comme un fou, un diable dans l'eau bénite, comme ils disent, pour essayer de plaire à tout le monde. Et en réalité, tout ce que je voulais, c'est mon épanouissement. Je ne le savais même pas. Fait qu'aujourd'hui, je le sais, ça. Fait que je le sais que si ça ne me tente pas, ben, avant de donner un oui, je vais dire, moi, checker mon agenda, on va te revenir là-dessus. C'est bien plus facile, puis c'est bien plus efficace, puis il n'y a pas personne qui est blessé. Si je dis oui, après ça, je vais rappeler pour dire non, c'est difficile. Mais peut-être qu'il faut que je le fasse si je ne suis pas confortable. Puis là, ils nous disent, ça marche vraiment, ça marche. C'est trois pages-là, 97, 98, 99, c'est mon mode de vie. À tous les jours, je peux faire ces trois pages-là, puis je vais être joyeux, heureux et libre. C'est à peu près impossible à penser. Comment ça prend le temps à lire ces trois pages-là? Peut-être 10 minutes quand je suis seul, puis lis ça. J'ai une partie le soir, une partie le matin. Ma méditation de 2 à 5 minutes, de 1 à 2 minutes pour commencer s'il faut. Je vais lire ce paragraphe-là. Comment ça prend le temps de lire ce paragraphe-là? Être assis à quelque part, confortable, et lire ce paragraphe-là. C'est assez pour commencer. Hein? On va aller lire le début de la page 100, là, puis après ça, on va aller dans le 12 par 12. Nous, les alcooliques, sommes indisciplinés. Alors, nous laissons Dieu nous montrer la voie par la simple méthode que nous venons d'exposer. Cette simple méthode-là, les directives claires et utiles de la 11e étape, si je m'en tiens à ça, je ne peux pas faire autrement qu'être joyeux, heureux et libre. Mais ce n'est pas tout. Il faut agir, toujours agir davantage, car la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est quoi la foi sans les œuvres? J'ai été assis sur le couch et demandé au bon Dieu qu'il me donne une bonne job, qu'il m'emmène une femme, puis un char neuf, puis une grosse maison. C'est ça une foi sans les œuvres. Je crois en Dieu, je lui demande des choses impossibles, puis ça n'arrive pas, puis après ça, je vais être blond. La foi sans les œuvres, c'est ça. La foi, c'est que j'ai confiance, je le sais qu'il y a un être suprême, je le sais que j'y demande de l'aide, je vais l'avoir. Mais je vais avoir de l'aide spirituelle. Je n'aurai pas de l'aide de bâtir la maison, je vais avoir de l'aide spirituelle, des idées dans ma tête, des gens dans ma vie qui vont venir m'aider. Le chapitre suivant est consacré entièrement à la 12e étape. Ça va être pour la semaine prochaine. On va aller voir dans le 12 par 12, à la 11e étape. Je ne sais pas si on aura le temps de tout le lire, mais en tout cas, on va en lire une bonne partie parce que j'adore cette 11e étape-là dans le 12-12. Excusez, la page 109, là. Il y a peut-être des livres, une page différente, mais c'est la 11e étape. On va lire la 11e étape. On ne la lira pas au complet, mais on va lire des bonnes parties. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions. Lui demandant seulement de connaître sa volonté en notre corps, nous donner la force de l'exécuter. C'est tellement simple qu'on dirait qu'il manque quelque chose. On dirait que ça ne peut pas être simple que ça. On va le lire, on l'a lu tout à l'heure, les trois pages, on va relire là-dedans ce qu'ils nous disent. La prière et la méditation sont nos principaux moyens de contact conscient avec Dieu. Avec mon Maître suprême, c'est le même que je communique par la prière et la méditation. Les hauts sont des gens actifs. Nous sommes ravis de pouvoir faire face à la vie telle qu'elle se présente, souvent pour la première fois, et de pouvoir nous porter avec zèle au secours du prochain alcoolique qui croise notre route. Notre vie était toute chambardée. Avec ça, on a mis de l'ordre dans notre vie. On a réussi à avoir une vie joyeuse, heureuse et libre, sans consommer, sans être dans aucune consommation. On est dans le bas de la page 109. Pour certains nouveaux et pour ces agnotistes de jadis, qui persistent à considérer le groupe des A comme leur puissance supérieure, les témoignages sur le pouvoir de la prière sembleront peu convaincants ou pour le moins discutables, malgré tout ce que la logique et l'expérience tendent à prouver. Ceux d'entre nous qui ont déjà partagé cette attitude peuvent sûrement comprendre et sympathiser. J'en étais un de ceux-là, oui, qui ne pouvait pas croire à ça, que la prière et la méditation, ça pouvait marcher pour moi. Je pensais que c'était des gens faibles qui avaient besoin d'aide ou qu'ils espéraient trouver de l'aide, puis moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Quelque chose de très profond, nous nous en souvenons, se rebellait sans cesse contre l'idée de nous incliner devant quelque Dieu que ce soit. Plusieurs d'entre nous pouvaient eux aussi prouver à l'aide d'une logique solide que Dieu n'existait pas. Pourquoi les accidents, les maladies, la cruauté, l'injustice partout dans le monde? Pourquoi toutes ces vies de malheur dirigées, directement causées par des naissances infortunées ou par des circonstances incontrôlables? Il ne saurait avoir là de justice et par conséquent, pas de Dieu non plus. Puis moi aussi, tant que j'ai cru que c'était Dieu qui faisait le malheur, tant que j'ai cru que c'est Dieu qui me punissait, c'est Dieu qui faisait arriver toutes ces choses-là dans la vie, mais je ne pouvais pas y croire en Dieu, puis je ne voulais pas y croire en Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est la vie qui amène ça. C'est les hommes qui font les guerres, puis c'est la vie qui fait que j'ai des choses dans la vie qui ne sont pas agréables. Mais quand je m'en remets à ce Dieu-là, ce Dieu de lumière-là, cet être suprême-là, bien, ma vie devient bien plus facile à accepter puis à vivre. Mais comme j'étais avant, je n'avais pas de chance, puis aujourd'hui, je peux le voir pourquoi je ne veux rien savoir de Dieu, parce que j'imposais tout ça, je m'étais tout coupable de faire ça. Puis quand j'ai compris que ce n'est pas Dieu qui faisait ça, puis Dieu était là juste pour m'aider, quand la vie n'est pas faite avec moi, la vie n'est pas correcte, je demande à Dieu de m'aider, puis il m'aide. Vous voyez juste les paragraphes là, dans la page 110, mais il n'existait sûrement pas de preuve que Dieu connaît les humains et s'y intéresse. C'est ça que je pensais, hein? Évidemment, nous avons fini par faire l'expérience et devant des résultats inattendus, nous avons changé d'idée. À vrai dire, nous avons compris. Quand mon parrain m'a expliqué c'était à quoi Dieu, c'était à quoi cet être suprême-là, il n'était pas là pour me nuire, il était là pour m'aider, strictement pour m'aider. Si je ne demande pas, il ne s'en mêlera même pas. Puis quand j'ai commencé à faire l'expérience avec lui, parce que j'ai fini par lui dire, je ne voulais pas croire à Dieu, il voulait rien savoir. Puis je disais, toi, c'est correct, tu peux en avoir un, mais moi, je ne veux rien savoir de ça. Puis j'ai demandé un bon coup, j'ai dit, je n'y crois pas ton bon Dieu. Là. Si je voudrais y croire, qu'est-ce que je voudrais que je fasse? Il dit, ben, c'est bien simple. Demande d'avoir la volonté de croire. Mais j'ai dit, à qui je vais demander ça? Il dit, c'est pas important. Mais c'est important que tu demandes d'avoir la volonté de croire. Puis c'est ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à demander d'avoir la volonté de croire. Puis tranquillement, ma vie a semblé à fitter mieux parmi la vie des autres. Ça semblait aller mieux. Et je me suis dit, peut-être c'est ça, Dieu. J'ai continué à demander de croire, à avoir la volonté de croire, puis tranquillement, j'ai cru. Aujourd'hui, je suis convaincu. Je ne peux pas vous jurer qu'il y a un bon Dieu, mais tout ce que je peux vous dire, c'est depuis que moi, j'y crois, ma vie va bien mieux. Puis ça, ce n'est pas discutable, c'est 100% sûr. Ma vie va beaucoup mieux depuis que j'ai mis Dieu dans ma vie. Peut-être que je meurs et qu'il n'y a pas de Dieu, je ne sais pas, mais je vais avoir une meilleure vie à cause que j'ai cru qu'il y en avait un. Puis s'il y en a un, je vais promettre de mieux en mieux encore. Fait que en anglais, ils disent que c'est un win-win situation. Je ne peux pas perdre à décroire qu'il y a un Dieu qui peut m'aider. Puis à faire l'expérience, mon parrain, il avait cette expérience-là, puis il essayait de la transmettre, puis je ne voulais rien savoir. Puis tant que je n'ai pas demandé cette question-là, bien, je ne l'ai pas eu. Puis après ça, ça s'est développé assez vite. Le même phénomène, avons-nous constaté, peut se reproduire pour quiconque veut tenter l'expérience. Mon parrain dit, mais allez à l'épreuve, essaye-le. Crée-moi pas, essaye-les. M'en dis à Dieu qu'il t'aide dans telle chose, que les pensées que tu as ou des peurs que tu as, m'en dis qu'il t'aide. Puis, on a dit avec raison, que personne ne se moque de la prière, sauf ceux qui ne sont pas suffisamment appliqués. C'est certain que je ne croyais pas à ça, je ne pourrais pas y aller là. Tant que je n'ai pas demandé ça, je n'ai pas pu profiter de ça. Ceux d'entre nous qui ont pris l'habitude de prier régulièrement, à part chant 11 dans le 12-12, ne voudraient pas non plus s'en priver, plus que nous soyons prêts à refuser l'air, la nourriture ou le soleil. Pour la même raison, quand on refuse l'air, la lumière ou la nourriture, l'organisme en souffre. Si je ne me nourris pas comme il faut, je brûle la chandelle par les deux bouts comme j'ai fait, c'est certain que les résultats ne sont pas trop bons pour ma santé. De la même manière, si nous détournons de la prière et de la méditation, nous privons d'un soutien vital notre esprit, notre cœur et notre inspiration. On se déprive de ça par notre propre manque. C'est pas croyable. Puis le jour que j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai perdu des années à ne pas vouloir croire ou à croire à quelque chose qui n'était pas croyable. Okay? Tout comme un corps sous-alimenté peut défaillir, ainsi en va de l'âme. Mon âme était défaillante complètement, complètement défectueuse. Il n'y avait rien qui marchait là-dedans. Puis je pensais que ça n'existait pas. J'ai eu un parrain hors pair, moi, qui m'a guidé et qui ne m'a pas laissé aller. Il m'a dit, Hubert, tu ne passeras pas à travers, tu ne peux pas en venir à croire. Tu ne passeras pas à travers, Hubert. Puis j'étais obstiné, puis j'avais des préjugés tellement solides dans moi que je ne pensais pas que ça se brisait. Puis tant que je n'ai pas demandé d'avoir la volonté de croire dans d'autres choses, je ne l'ai pas eu. Nous avons besoin d'une lumière de la réalité de l'existence de Dieu, de sa force comme de nourriture et de sa grâce comme de l'air vivifiant. L'expérience de la vie chez Léa donne à cette vérité séculaire une confirmation stupéfiante. Une vérité séculaire, c'est une vérité depuis les temps, depuis que le monde existe, qui ont compris qu'il y avait un Dieu en dedans d'eux autres, puis ont demandé de l'aide à ce Dieu-là, ils l'ont eu. C'est une vérité depuis les temps. Il y a une confirmation stupéfiante. Moi, j'ai été stupéfait. Quand j'ai commencé à croire, j'ai commencé à voir ça. J'ai dit, ça se peut-tu, ça se peut pas. Je pensais que c'était une erreur les premières fois. Ça continue à se produire et à se reproduire. Finalement, j'ai fini par croire. L'examen de conscience, dans le milieu de la page 111, l'examen de conscience, la méditation et la prière sont directement reliés entre eux. C'est pour ça, quand on va lire la prière, la page 97 dans le gros livre, ça fait partie de la 11e étape. Mais ils nous disent que la 10e et la 11e, c'est relié en Dieu. C'est comme pris ensemble. Puis quand on le fait ensemble, ça a encore 10 fois plus de force que si on le fait séparément. L'examen de conscience, la méditation et la prière sont directement reliés en Dieu. Séparément, ces pratiques peuvent apporter beaucoup de soulagement et de bénéfices, mais quand elles sont logiquement reliées et conjuguées, elles forment une assise inébranlable pour la vie. Quand on peut faire ces deux étapes-là, soir et matin, la 10e, la 11e, là, ça forme une assise, une fondation inébranlable pour la vie. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de doute. Je le sais que Dieu est dans ma vie. Je le sais qu'il y a un Dieu pour moi, puis ma vie a changé à 100%, complètement de direction. Puis, j'ai aucun doute, puis quelqu'un peut rire de moi, ça ne me dérange pas, parce que je le sais le bienfait que ça me fait, moi. Puis, je le sais que ça a fait ça à mon parrain, puis je le sais qu'il y a de mes filleules qui ont adopté ça, puis qui vivent ça aujourd'hui. Nous pourrons être gratifiés de temps en temps d'un aperçu de cette ultime réalité qu'est le royaume des cieux. C'est-tu croyable? Je vais ressentir la vie spirituelle, je vais la ressentir physiquement. C'est ça qu'il nous dit, être gratifié de temps en temps d'un aperçu de cette ultime réalité qui est le royaume de Dieu. Bill nous en parle à page 10 du gros livre. Il dit, la 4e dimension de l'existence, c'est quoi? C'est que je peux être joyeux, heureux et libre sans consommer, sans aller dans mes consommations, dans mes addictions. Je ne suis plus obligé d'aller là, puis je suis joyeux, heureux et libre. Puis quand je suis joyeux, heureux et libre, je n'ai pas de remords après ça. Puis quand j'allais dans mes addictions, j'étais peut-être joyeux, heureux et libre le temps que ça dirait, puis après ça, j'avais des remords pour le restant de ma vie. Aujourd'hui, je peux être joyeux et libre sans avoir de remords, être joyeux, même dans des situations difficiles. Je le sais que ça va se passer, je sais que c'est temporaire, je le sais que Dieu est avec moi, puis ça va marcher. C'est pour ça que je suis gratifié de temps en temps de cette ultime réalité qu'est le royaume de Dieu. Une fois de temps en temps, quand ça a commencé, une fois de temps en temps, puis je dis à mon parrain, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je filais pas mal bien. Qu'est-ce que je fais pour ça? Il continue à faire ce que tu fais là, Hubert, puis ça va arriver de plus en plus souvent. Puis ça continue d'arriver de plus en plus souvent. Je l'ai-tu à 100%? Non, je suis loin de l'avoir à 100%, mais je l'ai tous les jours, puis je l'ai souvent dans les jours. Je pense pas qu'il y ait une journée que je n'ai pas eu ces sensations-là de la 4e dimension d'existence. Mais il faut que je fasse ce qui est écrit là. Si je ne le fais pas, je ne l'aurai pas. Je vais mourir de faim, mon âme va mourir. Nous obtiendrons aussi le réconfort et l'assurance que notre propre destinée dans le royaume durera aussi longtemps que nous essaierons, même en hésitant, à connaître et accomplir la volonté de Dieu. On va avoir cette réconfort-là, puis cette assurance-là, que dans ma vie à moi, là, dans ma propre destinée, le royaume va durer aussi longtemps que je vais essayer de le faire paraître, tant que je vais continuer dans cette direction-là, comme mon parrain disait, tu vas en avoir de plus en plus, puis c'est vrai, j'en ai tout le temps de plus en plus. De cette assurance-là, le royaume de Dieu. T'sais? Nous obtiendrons aussi le réconfort de notre propre destinée dans le royaume durera aussi longtemps que nous essaierons. C'est quoi essayer? C'est demander de l'aide de Dieu, demander sa volonté, puis prier pour que sa volonté arrive dans ma vie, même en hésitant, même en n'étant pas sûr à connaître et accomplir la volonté de notre Créateur. T'sais, moi, je trouve ça tellement grand, 11e étape. Là, je deviens. C'est tellement fort. C'est pas. Mais pour en arriver là, il faut faire les 10 premières. C'est ça qui est le point tournant. C'est ça que je ne peux pas avoir juste à lire ça. Il faut que j'aille faire mes 10 premières étapes avant de pouvoir avoir la réalité d'être dans le royaume de Dieu. Donc, peux-tu demander mieux qu'être dans le royaume de Dieu? Je suis assis avec vous autres, je suis dans le royaume de Dieu. Ça se peut-tu? C'est des choses impensables. Jamais j'aurais cru ça, moi, il y a 30 ans. Je n'aurais pas pensé que c'était une joke. Je pensais pas que ça se pouvait. Comme nous l'avons vu, l'examen personnel est le moyen qui nous permet d'apporter une vision, une action, une grâce nouvelle sur la partie obscure et négative de notre vie. La 10e étape, c'est ça que ça a servi. C'est une étape vers le développement de cette forme d'humilité qui nous permet de recevoir l'aide de Dieu. C'est toutefois qu'une étape, nous devons aller plus loin. La 10e, on n'est pas fini là, on va aller. Nous voulons faire croître et fleurir ce qu'il y a de bon en chacun de nous, même s'il est plus minable, même si les personnes qui pensent qu'ils n'ont rien de bon, il y a de quoi de bon. Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu n'a pas créé du bon monde puis du pas bon monde. Il a tout créé du bon monde, puis il y en a de nous autres qui a tourné moins bien parce qu'on a été dans une mauvaise direction. Mais avec les hauts, avec les étapes, on peut se ramener à devenir la personne qu'on était supposé d'être. On va baisser un peu plus bas dans la page 112 parce qu'ils vont nous montrer comment méditer. Puis c'est tellement important. Il me dit, mais qu'arrive-t-il à tous les autres qui n'ont pas d'avantage, qui ne savent même pas comment commencer? Moi, j'étais un de ceux-là. J'avais essayé différentes méditations, puis ça n'a pas marché. Puis quand je buvais, c'était certain que ça ne pouvait pas marcher. Puis là, il nous dit, bien, nous pourrons commencer comme ceci. Nous vont étape par étape comment faire de la méditation. Prenons d'abord une vraie bonne prière. Nous n'aurons pas cherché bien loin. Les grands hommes et les femmes de toutes les régions en ont laissé une riche collection. Arrêtons-nous à une d'entre elles qui est classique, la prière de Saint-François qu'on va aller décortiquer, que j'adore. Okay? Depuis maintenant plusieurs siècles, son auteur a été reconnu comme un saint. Nous n'en serons pas pour autant ni effrayés ni tendancieux. Ça veut dire qu'on n'aura pas peur parce qu'ils nous ont dit que c'est un saint. C'est un saint, c'est avec la religion catholique, les autres religions ou n'importe quoi, qu'il n'y a pas de saint. Mais il dit, on ne sera pas tendancieux, on n'a pas un parti pris, on n'aura pas peur parce que c'est ça. Parce que cette prière-là est tellement humaine. C'est une prière humaine qui nous emmène à une réflexion très avant-gardiste. Ils disent qu'il n'était pas un alcoolique, mais il a connu comme nous autres des déchirements émotifs. Il s'est fait mettre en prison pour le péché de la chair, Saint-François d'Assise. J'étais allé voir sur l'Internet sa vie. Puis en prison, il a eu une révélation il est allé refaire 5 cathédrales. Puis quand il est mort, quand il a refait 5 cathédrales, puis ils l'ont canalisé à cause de ça tout de suite. Mais Dieu a connu des déchirements émotifs et au sortir de cette expérience, il exprimait dans la prière qui suit, ce qu'il pouvait désormais voir et sentir ce qu'il désirait devenir. Dans une prière, qu'est-ce qu'il voulait faire? Puis moi, je dis, dans nos réflexions quotidiennes, cette prière-là, allez à la date de novembre 21, là, on a cette prière-là, là-dedans, dans la 11e étape. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où se trouve la haine, que j'apporte l'amour. Là où se trouve l'offense, que j'apporte l'esprit de pardon. Là où se trouve la discorde, que j'apporte l'harmonie. Là où se trouve l'erreur, que j'apporte la vérité. Là où se trouve le doute, que j'apporte la foi. Là où se trouve le désespoir, que j'apporte l'espérance. Là où se trouve l'obscurité, que j'apporte la lumière. Là où se trouve la tristesse, que j'apporte la joie. Seigneur, fais que je cherche à consoler plutôt qu'à être consolé, à comprendre plutôt qu'à être compris et à aimer plutôt qu'à être aimé. Car c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant qu'on reçoit le pardon, c'est en mourant qu'on s'éveille la vie éternelle. Si ce n'est pas une belle prière, pour moi, en tout cas, c'est une prière complète. J'adore cette prière-là. Comme débutant en méditation, nous pourrons maintenant relire très lentement cette prière à plusieurs reprises pour savourer chacun des mots et pour essayer de comprendre le sens profond de chaque phrase et de chaque idée. On va aller relire ça dans notre méditation le matin. Peut-être on va commencer par la lire une fois, mais on va continuer parce qu'ils vont nous donner tellement de bonnes idées. Il y a encore deux pages là-dedans que je veux finir certain pour asseoir. Tant mieux s'il nous faut abandonner toute résistance aux paroles de notre ami. Dans la méditation, la controverse n'a pas sa place. Il n'y a pas de mauvaise manière de méditer. La seule mauvaise manière qu'il y a, c'est de ne pas le faire. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de controverse. Nous nous laissons porter calmement par les pensées d'une personne avertie pour y vivre une expérience et pour apprendre. Personne avertie, c'est Saint-François d'Assise dans ce cas-là. Détendons-nous comme si étions allongés d'une plage au soleil. Il dit, trouve un coin de la maison où tu es le plus confortable possible pour faire ta méditation. C'est ça que ça veut dire. Donc, enveloppé de cette grâce. Disposez-nous à nous laisser prendre, à être tonifiés. J'aime ça, ces expressions. À nous laisser prendre, à être tonifiés, à être soulevés par ce vif courant d'énergie spirituelle. Je vais tonifier mon esprit. L'énergie spirituelle que je vais donner à mon esprit pour, en faisant cette méditation-là. L'énergie spirituelle de beauté et d'amour que transportent ces paroles magnifiques. Contemplons maintenant la mer ou la méditation. Je vais me mettre une place confortable, c'est juste ça que ça veut dire. Où je suis plus confortable possible, me faire moins déranger le possible. Puis là, ils nous disent zut alors, mais ça arrive que dans ma méditation, ils me posent ça d'idées dans la tête. Puis là, je me ramène à mon idée primaire, à savoir ce que Dieu attend pour moi aujourd'hui. S'il nous vient des réflexions de ce genre, nous pourrons nous rappeler qu'un certain abord tout l'intérêt que nous produisions dans notre imagination lorsqu'on buvait. Okay? On va descendre un peu plus bas. Au milieu de la page, à peu près, c'est la même chose pour la méditation. Elle nous aide à visualiser notre objectif spirituel avant tout effort pour l'atteindre. On va aller voir notre objectif. C'est quoi mon objectif spirituel? C'est d'être normal dans mes émotions, de ne pas être plus émotif ou moins émotif, d'être juste correct là-dedans. C'est ça qu'ils vont nous garantir avec la méditation. Venons donc une fois sur simple. Nous lisons notre prière une fois de plus en essayant d'en saisir le sens profond. Nous pensons ensuite à cet homme qui a prononcé. Puis, il demandait, j'aime bien comment est-ce qu'il nous grive ça, là, dans le bas de la page 114. Puis, il demandait la grâce, Saint Jean, il demandait la grâce d'apporter l'amour, il demandait la grâce d'apporter le pardon, d'apporter l'harmonie, d'apporter la vérité, d'apporter la foi, l'espérance et la lumière et la joie au plus grand nombre de personnes possible. Quand je fais cette prière-là, j'espère que je vais avoir le plus de monde possible dans ma vie que je vais pouvoir aider à devenir heureux le mieux possible. Il exprimait ensuite une aspiration et un espoir personnel. Il souhaitait pouvoir vivre avec la grâce de Dieu, trouver lui-même quelques-uns de ces trésors-là, des trésors qu'il voulait que les autres aient. Mais il dit à Dieu, j'aimerais ça d'en avoir un peu moi aussi. Il tâchait d'y parvenir parce qu'il appelait l'oubli de soi. Que voulait-il dire par oubli de soi et comment se proposait-il de le réaliser? Il trouvait préférable de consoler plutôt que d'être consolé, de comprendre plutôt que d'être compris et de pardonner plutôt qu'obtenir le pardon. Imaginez-vous si on peut mettre ces trois choses-là dans ma vie, à tous les jours de ma vie, à toutes les heures de ma vie. Hein? Préférable de consoler, de comprendre et de pardonner plutôt que d'obtenir ça moi-même. Voilà en partie ce qu'on pourrait appeler une méditation. C'est ça de la méditation. Une toute première tentative pour entrer dans un certain état d'esprit, pour aller voyager dans le royaume de l'esprit, si vous voulez. Je vais aller voyager avec ma tête, avec ma pensée, je vais aller voyager dans l'esprit de Dieu. Cette expérience devrait être suivie d'un regard attentif sur notre situation présente et sur les changements qui pourraient survenir dans notre vie si nous étions en mesure de nous rapprocher de l'idéal entrevu. Là, il nous rappelle encore la dixième étape. Cette expérience d'être suivie d'un regard attentif sur la situation. Comment je me suis comporté aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment je le fais? Il mélange la 10 et la 11, puis il nous dit que ça a bien plus de pouvoir quand on les mélange que quand on les fait séparément. À mesure de nous rapprocher de l'idéal entrevue. C'est quoi l'idéal entrevue? Bien, c'est l'entrevue que j'ai avec Dieu de ma confirmation, de ma conception. Cette entrevue-là, le plus longue qu'elle va être à tous les jours, le mieux que je vais filer, c'est ça l'idéal entrevue. C'est que moi et Dieu, on fasse un. Si un jour, ça peut arriver que moi et ma pensée et la pensée de Dieu soient la même, bien, c'est ça l'idéal entrevue. La méditation est un exercice qui peut prendre sans cesse plus d'envergure. Elle ne connaît pas de limite, ni en largeur, ni en hauteur, favorisée par toutes les connaissances et tous les exemples que nous pouvons trouver. Elle devient ensemble une aventure personnelle que chacun de nous peut conduire à sa guise. On peut faire 2 minutes de méditation, on peut en faire 2 heures. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de largeur, pas de grosseur. Mais s'il faut en faire, si on en fait un peu, on va bénéficier de tout ça. Mais son objectif est toujours le même. C'est quoi l'objectif de la méditation? C'est d'améliorer mon contact conscient avec Dieu, avec sa grâce, avec sa sagesse et son amour. Pour que j'en vienne à être dans le domaine de Dieu, être dans son domaine le plus longtemps possible, le plus de jours possible. Rappelons-nous toujours en réalité que la méditation est un exercice intensément pratique. Ses premiers fruits se manifestent par l'équilibre émotif. On va avoir un équilibre émotif. Émotivement, je vais être correct, je ne serai pas des gros hauts, des gros bas. C'est ça que la méditation va m'apporter. Elle nous permet d'élargir et d'approfondir la communication qui nous relie à Dieu tel que nous le concevions. C'est ça l'ultime voyage, l'ultime regard, toutes les expressions qui ont pu employer là, dans le domaine de Dieu, dans le royaume de Dieu qui nous parle, une fondation inébranlable. On va lire un petit peu de la page 116 à 120. On nous parle comment prier. Puis il nous explique là-dedans qu'on a essayé de prier. Tous les jours, on prie pour essayer que quelqu'un guérisse, pour essayer que quelqu'un fasse ci, puis fasse ça. Puis il dit, quand on fait ça, bien, on essaye de dire à Dieu quoi faire. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je ne lirai pas tout, là, je vais vous laisser le lire. On va lire la page 116, un petit peu en bas du moitié de la page. Je dis, notre première tentation serait de demander des solutions particulières, des problèmes particuliers, ou la capacité de rendre à d'autres personnes des services qui, à notre avis, leur sont nécessaires. Quand je vais prier pour quelqu'un, moi, je prie juste pour qu'ils connaissent la volonté de leur Dieu. C'est juste ça que je prie. Je ne prie pas pour qu'ils arrivent ici, qu'ils arrivent ça, qu'ils arrêtent de souffrir. Ce n'est pas moi qui contrôle ça. Puis ils nous disent, dans ce cas, quand on prie pour quelque chose en particulier, nous sommes en train de demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Moi, je ne suis pas dans une bottine à ces gens-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est prier pour qu'ils connaissent la volonté de Dieu à leurs égards. C'est rien que ça que je fais. Depuis que j'ai lu ça, depuis que j'ai appris ça avec mon parrain, je ne prie plus pour personne except prier pour qu'ils reconnaissent l'aide de Dieu qui est là pour eux autres, puis qu'ils peuvent aller arracher, qu'ils peuvent aller la trouver. Nous dit, nous demandons simplement à Dieu de nous permettre tout au long de la journée de comprendre le mieux possible sa volonté pour cette journée-là et la grâce de l'accomplir. C'est juste ça que j'ai à faire. Demande à Dieu qu'il m'aide à connaître ce qu'il y a dans ma vie. Puis si j'ai des amis qui sont en trouble, je dis, mais mon Dieu, il y a un de mes filleuls là, qui retourne boire, il ne passe pas 30 jours sans boire. Puis j'ai parlé encore à soir sur la brosse. Puis j'ai dit, avant de me coucher, je vais me mettre à genoux pour parler à mon aide suprême, qu'elle voit ton aide suprême. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand on n'est pas capable d'arrêter de boire, on n'est pas capable de ne pas retourner. Et il y a de quoi qui n'est pas correct avec la conception de cette aide suprême-là qu'on a. Parce que Dieu nous veut joyeux, heureux, libre. Il ne veut pas à moitié sous, à moitié gelé, à courroyer les femmes, puis à courroyer les hommes. Ce n'est pas ça qu'il veut, Dieu. Il veut juste qu'on soit joyeux, heureux, libre. En faisant ce qui est écrit dans ces livres-là. Ils nous disent que quand ça ne va pas bien, ben on nous gère une prière, puis moi, je suis gère du temps de prière de sérénité, parce que c'est court. Le seul fait de redire cette pensée à plusieurs reprises nous permettra souvent de dégager un conduit bloqué par la colère, par la peur, par la frustration ou quelques malentendus, et de revenir à l'aide le plus efficace dans tous ces moments de tension. Chercher la volonté de Dieu plutôt que notre propre volonté. Lors de ces moments critiques, si nous rappelons qu'il est préférable de consoler plutôt que d'être consolé, de comprendre plutôt que d'être compris et d'aimer plutôt qu'être aimé, nous marchons suivant l'esprit de la 11e étape. Ce n'est pas facile de faire ça, mais je suis là pour vous dire que ça se fait. Je le fais-tu à tous les jours, toutes les heures du jour? Non. Mais je sais que je le fais de plus en plus. Parce qu'il arrive, la vie continue à ne pas être correcte avec moi. C'est ça la vie, c'est qu'elle ne sera jamais parfaite. Puis quand elle n'est pas parfaite, je demande à Dieu qu'il me donne un coup de main. Puis quand elle est parfaite, je me mets à genoux et je remercie Dieu. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné ce moment-là dans la journée, cette 5 minutes-là, cette 1 minute-là, quel que soit le temps. Parmi tout ce qui arrive, j'ai un bon moment dans la journée et je remercie Dieu pour ce bon moment-là. Je vais vous lire la page 118, là, un autre paragraphe là, en bas de la page 118. Là. Dans le 12-12. Nous succombons aussi à une autre tentation semblable. Nous nous formons une certaine idée de ce que nous croyons être la volonté de Dieu pour d'autres personnes. Nous nous disons, un tel doit obtenir la guérison de sa maladie fatale, un autre doit être soulagé de ses tourments émotifs, et nous prions dans des buts précis. De telles prières sont sans doute des bonnes actions en principe, mais elle s'appuie souvent sur la prétention de savoir ce qu'est la volonté de Dieu à l'égard de la personne pour qui l'on prie. C'est-à-dire qu'une prière fervente peut ainsi s'accompagner chez nous d'une certaine présomption et de quelques prétentions. Hein? Moi, je pense que quelqu'un de cancer, je vais demander à Dieu qu'il la guérisse, mais ce n'est pas de mes affaires. Si je vais demander à Dieu qu'il aide à accepter ça, par exemple, c'est sûr que je vais demander quel pouvoir avoir son aide suprême qui va y aider à accepter sa maladie, quelle que soit la maladie. L'expérience d'Éa nous apprend que dans ces cas particuliers, nous devons prier pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Je vais vous lire le dernier paragraphe à la page 120. Là. Moi, j'ai écrit en parenthèse la volonté de Dieu. L'une des plus précieuses récompenses que nous pouvons apporter à la prière et à la méditation, c'est sans doute le sentiment d'appartenance que nous en tirons. Désormais, nous ne vivons plus dans un monde totalement hostile, un monde de malheur, un monde de défaite, c'est pas là-dedans qu'on vit. Nous sommes plus perdus ou affolés, nous sommes plus sans but. Dès que nous pouvons, ne serait-ce qu'un instant, entrevoir la volonté de Dieu, même si c'est un instant dans ma 24 heures, là, je vais dire merci mon Dieu pour cet instant-là. Dès que nous commençons à considérer la vérité, la justice et l'amour comme des vraies valeurs, des valeurs éternelles de la vie, plus rien ne vient nous bouleverser de tout ce qui semble être la preuve du contraire dans l'ordre purement humain qui nous entoure. J'aime cette phrase-là, j'aime ce paragraphe-là. Nous savons que Dieu veille avec amour sur nous. Nous savons qu'en nous, en nous tournant vers lui, tout ira bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Si ça ne va pas bien, c'est parce que ce n'est pas fini. Ça va finir par aller bien. Demandez au Dieu le courage de passer à travers les épreuves que vous êtes en train de vivre, ou des passages de la vie qui sont moins agréables. Puis ça va se passer. Tu sais, des fois, je me rappelle d'aller voir mon parrain et lui dire, mais tu sais, ça fait 2 jours et ce n'est pas passé encore. Et Dieu, mal continue jusqu'à temps que ça soit passé. Continue d'y demander de l'aide. Continue d'y dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Puis ça va finir par passer. Puis tu vas en sortir vainqueur. Aujourd'hui, on dit, on sait que ça va être correct. Je ne sais juste pas quand, mais je sais que ça va être correct. Puis juste le fait de savoir que ma vie va devenir correcte quand elle n'est pas correcte, mais ça me donne le goût de vivre, ça me donne le goût d'être là. On sait que ça va être correct. La foi, ce n'est pas d'espérer, la foi, c'est de le savoir. Moi, je le sais aujourd'hui, ma vie va être correcte. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'elle va être correcte. Même quand j'ai des épreuves, même quand ça ne va pas bien avec ma fille, puis son mari, puis ses enfants, je le sais que ça va être correct. Je ne sais juste pas quand. Puis je prie mon Dieu qui a lieu aider à connaître la volonté de Dieu dans leur vie à eux autres. Pour que moi, j'aie une paix d'esprit. Pour que j'arrête de m'en faire pour ma fille, pour mes petits-enfants, pour n'importe quoi. Qui peut me bouleverser. Je ne sais pas quand ça va arrêter, mais je sais que ça va arrêter. Je le sais parce que j'ai la foi. La foi, c'est de le savoir. Puis je le sais. Je sais qu'il y a un Dieu qui est là. Puis il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas tout le temps, qu'on n'aime pas toujours. Mais jamais j'arrête de demander à Dieu que sa volonté soit faite, même quand ça va mal. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de me supporter. J'ai besoin de vous autres. On va finir avec la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Encore une fois, merci d'être là. Là, je n'aimerais pas, j'ai besoin de vous autres.